Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous et toute la rédaction. Ce soir à la une, nos enfants seront-ils bientôt vaccinés? Pfizer annonce des résultats sûrs et efficaces pour les 5-11 ans. Alors le calendrier va-t-il s'accélérer? Nos petits bouts devront-ils présenter leurs biceps? On va s'interroger dans un instant avec nos spécialistes, puis avec le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue. Il sera l'invité du journal de 19h. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal imminent. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 3 personnes en garde à vue après la mort d'une jeune femme samedi à Toulouse. Son conjoint s'était rendu, mais c'est une information RTL. 2 militaires témoins des faits sont aussi entendus pour non-assistance à personne en danger. Après la guerre d'Algérie, la France a manqué à ses devoirs. Emmanuel Macron a demandé pardon ce matin aux harkis, promettant que les combattants et leurs familles ne seront pas oubliés. Et puis le huis clos pour Lens, interdiction de déplacement pour les supporters de Lille, les premières sanctions après les incidents du week-end en Ligue 1. Les courses à Fontainebleau dans le Quintet Plus, il fallait jouer le 5, le 1, le 8, le 3 et le 4.
À 18h15, la bataille de l'assurance chômage. La CFDT va-t-elle saisir le Conseil d'État? À 10 jours de l'entrée en vigueur de la réforme, le secrétaire général du syndicat, Laurent Berger, sera notre invité. Dans un quart d'heure, la brigade RTL va aussi se pencher sur une évacuation sanitaire record. 25 heures d'avion pour emmener 8 patients en réanimation de Polynésie en métropole. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu. Nicolas Sarkozy a reçu Xavier Bertrand aujourd'hui, mais in fine, qui l'ex-président soutiendra-t-il? À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière dans l'atelier de Guillaume Musso. Et puis à 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Entre la crise des sous-marins et le retour des talibans, on va se demander si l'ONU sert encore à quelque chose. Et puis vous savez, la pièce de monnaie pour prendre un caddie au supermarché. Eh bien, vous en aurez bientôt plus besoin.
À 19h15, on va refaire le monde et débattre du pardon aux harkis, notamment autour d'Éric Brunet. Et puis tout au long de l'émission, vos points météo. Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance en un mot.
Des conditions qui s'améliorent, beaucoup plus calmes et plus sèches, avec en prime une hausse générale du mercure.
Le détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier, Marion Calais.
Un conjoint violent, des voisins qui avaient alerté et à présent 2 témoins placés en garde à vue après un féminicide samedi dans le quartier du Mirail à Toulouse.
Vous êtes notre correspondant sur place, Patrick Tégéraud. RTL le révélait cet après-midi, ce sont 2 militaires désormais qui sont entendus pour non-assistance à personne en danger.
Oui, ces 2 témoins participaient à ce que l'on ne peut pas véritablement appeler une fête. C'était une soirée, comme il en arrivait trop souvent dans cet appartement, sur fond d'alcool et de drogue. Le conjoint de la victime, celui qui est soupçonné des coups mortels, s'était présenté de lui-même au commissariat après quelques heures de fuite dimanche après-midi. Karine habite juste en dessous. Elle a entendu le bruit de la fête, puis les coups.
Ça commence par tapage nocturne et ça finit comme ça.
Oui, vous avez averti la police vers quelle heure?
À 23h15. Quand ça commençait à être un peu plus violent, que j'entendais courir dans l'escalier et que ça commençait à être beaucoup plus fort, quoi. En précisant qu'ils savent très bien qu'il y a des enfants, ils connaissent la situation et personne n'est venu.
Dans l'immeuble, on redoutait une telle issue. Les policiers sont intervenus très souvent. Il y a eu des procédures, mais la jeune femme ne voulait pas quitter son compagnon. Liliane a souvent insisté à l'arrivée des policiers.
Ils venaient régulièrement parce que les voisins étaient excédés par le bruit, par les cris. Il s'en allait, le gars, il s'en allait. Après, il revenait de suite, 2 jours après. Mais on savait, mais c'est dommage. C'est dommage pour les petits, là.
L'enquête dira si oui ou non l'alerte a été donnée samedi soir. La garde à vue du conjoint a été prolongée. L'autopsie de la victime aura lieu demain matin. Elle était la maman de 3 enfants de 4 ans, 2 ans et 3 mois.
Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Au procès des attentats du 13 novembre, la nouvelle provocation de Salah Abdeslam qui appelle au dialogue pour éviter de nouveaux attentats, et ce alors qu'étaient présentées aujourd'hui les images du massacre de la Belle Équipe où 21 personnes ont été tuées. 12 ans aujourd'hui, 5 ans demain, la vaccination contre le Covid-19 va-t-elle pouvoir être étendue aux plus jeunes? En tout cas, les laboratoires Pfizer-BioNTech ont dévoilé aujourd'hui les résultats de leur étude sur les 5-11 ans.
Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Ces résultats, tout d'abord, quels sont-ils?
Alors, pas de toxicité, une très bonne tolérance, des effets secondaires semblables à ce qui est observé dans le reste de la population, fatigue, maux de tête, douleurs au point d'injection et surtout, selon le laboratoire, une très bonne réponse immunitaire, comme pour la tranche 16-25 ans, à raison là aussi de 2 injections espacées de 3 semaines, mais avec un dosage 3 fois plus faible.
Des résultats rassurants donc, Odile. Est-ce que ça veut dire pour autant que le vaccin pour les 5-11 ans sera autorisé prochainement?
Ce n'est pas tout à fait pour demain. Le laboratoire annonce vouloir déposer rapidement une demande d'autorisation aux États-Unis et une autre auprès de l'Agence européenne du médicament. Réponse sans doute début 2022.
Alors, si tous les feux passent progressivement au vert, est-ce qu'on connaît déjà la position de la France sur cette vaccination des jeunes enfants?
Alors d'abord, la France a toujours suivi les recommandations de l'Agence européenne du médicament. Ouais. Il n'y a pas de raison que cela change, surtout dans le contexte actuel d'un variant Delta très contagieux qui circule beaucoup dans ces classes d'âge. Interrogé sur cette question début septembre, Emmanuel Macron avait déclaré « Dès que les scientifiques nous diront « on ouvre la vaccination aux plus jeunes », on le fera ».
Les précisions d'Odile Pouget, spécialiste santé de RTL, et le professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue, sera notre invité dans moins d'une heure dans le journal de 19h.
On l'a appris cet après-midi, après un an et demi de restrictions, les États-Unis vont rouvrir leurs portes début novembre aux étrangers vaccinés.
La réouverture sous condition toutefois, parce que les voyageurs devront être testés, porter le masque et accepter d'être tracés pendant leur voyage.
Après l'annulation du contrat du siècle pour la livraison de 12 sous-marins à l'Australie, Paris doit se sentir un peu moins seul cet après-midi. C'est la présidente de la Commission européenne qui a haussé le ton.
D'abord, il y a beaucoup de questions auxquelles nous attendons une réponse. Un des membres de l'Union européenne a été traité de façon inacceptable. Donc, nous voulons savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Et par conséquent, nous voulons une clarification avant de continuer à commercer comme avant.
Et Emmanuel Macron et Joe Biden devraient s'entretenir par téléphone dans les prochains jours.
Ils ont combattu pour l'armée française au moment de la guerre d'Algérie, puis ont été soit livrés à leur sort sur place après la fin du conflit, soit placés dans des camps aux conditions de vie indignes. Dans l'Hexagone, les harkis ont reçu aujourd'hui les excuses de l'État.
La France leur a lâché la main et leur a tourné le dos. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas.
Alors Emmanuel Macron a donc demandé pardon, mais il a aussi annoncé une future loi pour permettre aux harkis et à leurs descendants d'obtenir reconnaissance et indemnisation. Parce que 60 ans après, William Galibert, les plaies restent vives au sein de cette communauté.
Oui, et on l'a compris lorsqu'une femme en larmes a interrompu le discours du chef de l'État.
Je vous connais.
Les blessures resurgissent, dialogue de sourds. Emmanuel Macron finit par reprendre sa demande de pardon. A pourtant profondément touché Dalila Kerchouch, fille de Harki, elle-même née dans un camp du Lot-et-Garonne.
Ces mots m'ont bouleversée et ils sont à la hauteur de la souffrance de nos parents, de la souffrance de tous ces soldats de la République, de tous ces enfants qui ont grandi dans les camps. Et là, je pense à mes parents qui sont partis récemment. J'aurais aimé qu'ils soient encore là pour entendre ces mots.
D'autres, comme ce responsable associatif, Mohand Amoumou, n'en faisait pas un point essentiel.
Il n'y a pas de demande de pardon, parce qu'on ne demande pas à quelqu'un de vous demander pardon quand vous savez que c'est pour quelque chose d'impardonnable.
Le texte promis par le président devrait être voté début 2022, mais il est des douleurs que ni les mots, ni les lois, ni l'argent ne pourront jamais totalement apaiser.
En précision, signé William Galibert du service politique de RTL.
Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir. Après les débordements footballistiques du week-end entre Lens et Lille, place aux premières sanctions. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et donc la suite de votre journal, 18h10, vous écoutez RTL. Elle a voulu frapper vite et fort, 2 jours seulement après les nouveaux incidents en Ligue 1, eh bien la commission de discipline de la Ligue de Foot Pro a dévoilé ses premières sanctions.
Des sièges jetés, le terrain envahi par les supporters, 6 blessés. Et au final, c'est Lens qui écope de la plus lourde sanction, Nicolas Georgerot.
Oui, avec des mesures prises à titre conservatoire, 8 clos total pour les Lensois dans leur enceinte de Bollaert de Lelis jusqu'aux sanctions définitives. 2 rencontres d'ores et déjà concernées, Lens-Strasbourg mercredi et Lens-Reims le 1er octobre. Lors de cette réunion en visioconférence en début d'après-midi, a été décidé également d'interdire le déplacement des supporters du LOSC jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura donc pas de supporters nordistes à Strasbourg samedi prochain. Toutes ces sanctions peuvent encore être prolongées. Le rapport des incidents sera examiné le 6 octobre et les décisions finales alors connues.
Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL. Le projet faisait déjà polémique. Cette fois, la justice s'en mêle. Un juge administratif a suspendu aujourd'hui le permis de construire de la future piscine d'entraînement d'Aubervilliers pour les JO 2024, bassin pour lequel une partie des jardins ouvriers ont dû être détruits.
Oui, destruction qui faisait débat. Donc les travaux sont en partie arrêtés en attendant une décision sur le fond du dossier. Mais c'est déjà un soulagement pour Dolores Mijatovic, membre du collectif de défense de ces jardins d'Aubervilliers.
On a sauté de joie, on s'est pris dans les bras les uns les autres, on s'est dit ça y est, on obtient ce qu'on avait tant souhaité. On va voir comment va réagir la mairie, sachant qu'il lui est demandé de se mettre en conformité sur trois choses. Ça ne fait que commencer, c'est que le début du combat. Très clairement, nous, on est très déterminés à aller jusqu'au bout, en fait. Puis après, il y a le jugement sur le fond. On dormira mieux quand on aura eu le résultat du jugement sur le fond.
Dolores Mijatovic, membre du collectif de défense des jardins d'Aubervilliers, avec Hortense Crépin pour RTL.
Ajoutons qu'en avril dernier, une décision identique avait été prise pour les travaux du village média que la justice avait finalement autorisé.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Alors, et ce soir, on se réjouit pour les petits écoliers d'Helsinki qu'ils n'avaient plus droit jusque-là, figurez-vous, de chanter joyeux anniversaire à leurs petits camarades. Et bien désormais, ils vont pouvoir à nouveau chanter à tue-tête, autorisation grâce à une levée des restrictions du côté de la Finlande.
Très bien, alors je ne suis pas certain que nos amis finlandais chantent joyeux anniversaire.
Certes.
Je ne parle pas finnois couramment, hein, c'est une langue assez difficile à apprendre, mais je n'en suis pas certain. Je parle à Damien, notre réalisateur qui se fourvoie, j'imagine. Merci beaucoup Marion, on se retrouve tout à l'heure. Le temps maintenant, Claire, ici en France, ça s'améliore demain, c'est ça?
Exactement, mais il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience, surtout pour la moitié sud, avec une couverture nuageuse assez dense, hein, toute la journée, avec en prime quelques petites averses localisées. Par contre, pour la moitié nord, après les brumes et brouillards qui seront quand même assez tenaces en matinée, pourra apparaître progressivement de quelques éclaircies, même beaucoup plus sympathiques vers le bassin parisien, le Pays de Caux, en remontant vers les Hauts-de-France. Quant à la Méditerranée, elle aura un ciel beaucoup plus variable, avec quelques petites averses également, mais rien de bien méchant, mais aussi quand même de belles éclaircies grâce au vent qui va quand même encore souffler modérément, 60 km/h. Pour les températures, en matinée, il faudra compter en général entre 9 et 14 degrés, et les maximales vont grimper dans l'après-midi jusqu'à 22 degrés pour la plupart des régions, et ça pourrait même encore aller de 23 à 26 degrés de. Devinez où, à votre avis, Julien?
Dans le sud,
bah
non?
Oui, près de la Méditerranée, oui, surtout en Corse. 26 degrés à Ajaccio.
Merci Claire.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, sur RTL, maintenant, on va maintenant vous raconter et interroger l'évacuation sanitaire record du week-end. 25 heures d'avion, 700 000 euros dépensés pour emmener 8 patients Covid en réanimation depuis la Polynésie jusqu'à Paris. Une opération XXL qui mérite 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Alors déjà, c'est une prouesse logistique.
Oui, car cet avion, c'était en fait un mini service réanimation, avec à bord 2 tonnes de matériel, des médicaments, 60 000 litres d'oxygène, des respirateurs. Il y avait même un petit laboratoire de biologie médicale pour pouvoir y analyser directement les prises de sang. Les 35 soignants à bord se sont relayés pendant les 25 heures de vol, et les pilotes, eux aussi, ont dû voler différemment. Ils sont montés moins haut, ont dû faire 200 km de détour pour éviter les zones de turbulence. Il a aussi fallu adapter la descente pour atterrir vraiment tout doucement et éviter les chocs et les variations de pression. Au total, au sol comme en l'air, 250 personnes ont œuvré sur cette opération.
Les patients sont restés stables pendant le vol?
Eh bien justement, nous avons posé la question au docteur François Braun, président du SAMU Urgences de France, qui était dans l'avion.
Les patients ont bien toléré le voyage. Les phases de décollage et d'atterrissage sont toujours des phases sur lesquelles nous sommes extrêmement vigilants. Mais là, globalement, non, ça a été plutôt bien. Et les patients sont arrivés, j'allais dire, comme ils étaient partis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout eu de dégradation entre leur départ de la réanimation jusqu'à l'arrivée dans les réanimations parisiennes.
Les 8 patients intubés, ventilés et dans le coma sont ce soir dans les réanimations d'Île-de-France.
Pourquoi une telle évacuation? Parce que c'est très coûteux. Est-ce qu'envoyer des moyens directement là-bas à Tahiti, ce n'était pas plus logique?
Alors si, mais en fait ça a déjà été fait. Des centaines de soignants sont déjà partis en renfort. On a aussi envoyé énormément de matériel. Ce n'était pas possible non plus de construire un hôpital militaire temporaire, comme on l'avait fait par exemple à Mulhouse, hein, vous en souvenez, pendant la première vague. Parce qu'aujourd'hui, cet hôpital est déjà déployé en Martinique. Il fallait donc évacuer en urgence et faire de la place. Par ailleurs, on sait que d'autres évacuations sanitaires pourront encore avoir lieu en Polynésie, voire même jusqu'en Nouvelle-Calédonie. C'est encore plus loin, là où la situation sanitaire est encore très tendue aujourd'hui.
Les explications de la brigade RTL. Merci Agathe Landais. Une petite pause sur RTL et ensuite Laurent Berger sera notre invité. Le leader de la CFDT va-t-il saisir le Conseil d'État? Il lui reste 10 jours pour tenter de faire capoter in extremis la réforme de l'assurance chômage. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
18h19, RTL Soir, à vos côtés. Comme chaque jour, on va se pencher maintenant sur une course contre la montre. Parce que dans 10 jours, la polémique réforme de l'assurance chômage doit entrer en vigueur. Le texte durcit les conditions d'accès aux droits. Mais attention, les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot. Bonsoir Laurent Berger.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. Est-ce que vous saisissez de nouveau le Conseil d'État? Parce que vous avez laissé planer la menace.
Oui, la CFDT va saisir le Conseil d'État contre ce nouveau décret qui est en fait est strictement le même que celui que nous avions déjà combattu. On aurait préféré que le gouvernement attende la décision du Conseil d'État sur le fond, sur le fond de la réforme.
Qui n'est pas tombé.
Mais là, on voit bien qu'il veut appliquer sa réforme coûte que coûte. Donc la CFDT va de nouveau la contester avec les mêmes motifs, c'est-à-dire une différence de traitement entre les demandeurs d'emploi, disproportionnée et injuste, et des mesures qui contreviennent aux principes assurantiels du régime d'assurance chômage. Donc on verra ce que dira le Conseil d'État cette fois, mais on continue de considérer que cette réforme elle est injuste et injustifiée.
Il vous reste 10 jours, est-ce que vous pensez vraiment que le Conseil d'État peut statuer de manière expresse ?
Bien sûr, le Conseil d'État est en capacité de statuer en référé, comme on dit, c'est-à-dire en mesure accélérée, en procédure accélérée. Et évidemment, il faut le faire avant l'application du texte. Donc, on a rendez-vous avec nos avocats demain et la CFDT la contestera, cette réforme. Elle dit depuis le début que c'est une réforme qui est injuste parce qu'elle va baisser l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Et en plus, elle arrive à une période où ces mêmes demandeurs d'emploi, qui, rappelons-le, sont des travailleurs précaires, qui alternent des périodes d'emploi et de chômage, vont se retrouver à avoir des charges fixes beaucoup plus importantes parce qu'il y a une augmentation du coût de la vie, on le sait, notamment du gaz, du carburant, etc. Donc, c'est injuste.
Écoutez Laurent Berger, puisque vous parlez d'injustice, je voudrais vous faire écouter le témoignage de Denis. Il est maître d'hôtel dans les Deux-Sèvres. Il fait partie de ses salariés qui alternent justement contrat et indemnité. Il a appelé RTL aujourd'hui au 3210 parce que lui, il a fait le calcul. Écoutez-le.
Elle m'impacte directement parce que le calcul des indemnités va complètement changer. C'est-à-dire qu'on ne sera plus calculé sur un salaire réel, réalisé, mais sur une base qui est amoindrie. Évidemment, cette réforme va nous amener à des fins de mois galères. Je vais me trouver avec un budget restreint, donc un reste à vivre plus compliqué. C'est un sujet qui touche des gens qui acceptent l'hyper-flexibilité du travail, quoi, qui sont les petites mains de notre société.
On ne prend pas soin des petites mains de notre société, Laurent Berger ?
Bah écoutez, ce témoignage de Denis, il est criant de vérité et c'est ce qui va arriver à 1 million de personnes. Il met le doigt sur le fait que le système ne respecte pas la règle assurantielle, c'est-à-dire de prendre en compte les périodes travaillées, que ces chômeurs qui vont être indemnisés sont en fait des travailleurs précaires, qu'ils ne choisissent pas la précarité, c'est pas de leur responsabilité, et il met le doigt sur le fait que cette baisse d'indemnisation mensuelle va être dramatique à un moment donné où le reste à vivre, pour reprendre son expression, est très faible pour ces personnes, ou inexistant. Donc oui, il va y avoir 1 million de personnes qui vont être impactées très directement tous les mois par une baisse de leur indemnisation liée à cette réforme.
Lors du précédent report, le Conseil d'État avait gelé la réforme parce que le contexte économique était trop incertain. Cette fois, le gouvernement peut s'appuyer sur de bons chiffres du chômage, de bons chiffres de la croissance, donc a priori, pas de quoi retarder l'entrée en vigueur.
D'abord, encore une fois, il n'y avait pas de décision au fond. Donc, aux décisions au fond, c'est le fait qu'il y ait une différence de traitement, que le système assurantiel n'est pas respecté. Mais sur la situation de la conjoncture, rappelons-le, il y a aussi un chômage de longue durée qui s'enquiste, qui est de plus en plus important. Aujourd'hui, il y a 2,8 millions de personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an. C'est 260 000 de plus qu'en février 2020. Donc, dire d'un niveau macro que la situation économique s'est améliorée, la réponse est oui, incontestablement. Mais quand on regarde au niveau plus micro, c'est-à-dire la réalité des femmes et des hommes, la situation est encore très difficile pour nombre d'entre elles et d'entre eux. Et c'est pour ça que c'est injuste. C'est-à-dire que ça ne prend pas... C'est une vision technocratique de l'assurance chômage. C'est pas une vision basée sur la réalité. Et donc, voilà ce qui va justifier le recours que va déposer la CFDT.
Laurent Berger, venons-en à une autre réforme polémique, celle des retraites. On ne sait toujours pas aujourd'hui si le projet est oui ou non enterré. L'une des pistes sur la table de l'Élysée, ce serait d'un côté la suppression des régimes spéciaux et de l'autre l'instauration d'un minimum retraite. Dans ce cas précis, imaginons que Emmanuel Macron propose ces deux réformes précisément. Vous ne dites pas non, j'imagine, à un minimum retraite ?
On ne dit pas non. Après, il faudra regarder, évidemment, si on parle du flux ou du stock. Si on parle du flux, c'est ceux qui vont arriver. Et du coup, ça restera des retraites qui sont extrêmement faibles pour ceux qui sont actuellement en retraite. On ne dit pas non, mais écoutez, il y a un débat présidentiel qui a déjà presque commencé avec une échéance en mars. C'est dans 7 ou 8 mois. C'est à ce moment-là qu'il va falloir discuter des retraites. Attaqué par le petit bout de la lorgnette, notamment, je parle des régimes spéciaux, vous l'avez compris, un système des retraites qu'on veut plus juste à la CFDT, qu'on veut plus universel, mais l'attaquer à 7 mois de cette échéance-là, alors qu'il n'y aura aucun effet concret, disons-le, sur les régimes spéciaux ou sur les finances publiques liées aussi à une nouvelle règle qui serait fixée, c'est une manœuvre. Donc ça n'a pas de sens. On est dans un pays qui se relève d'une crise sanitaire, qui est encore fragile, qui est démocratiquement essoufflé. On n'a aucun besoin d'aller se remettre sur la figure sur la question des retraites.
Juste pour terminer, Laurent Berger, je voudrais avoir une précision de votre part sur cette question du pouvoir d'achat que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que vous avez parlé des prix de l'énergie. C'est vrai que l'UFC Que Choisir aujourd'hui nous a expliqué que les tarifs de l'électricité allaient peut-être bondir de 10% à moyen terme. Est-ce que vous pouvez nous clarifier une position de la CFDT ? Je pense aux cadres à la retraite qui nous écoutent. Leurs pensions complémentaires ne seront sans doute pas indexées sur l'inflation, donc elles augmenteront moins que prévu. Et la CFDT a dit, ok, ça peut sembler paradoxal, non, puisque votre grand combat du moment, c'est le pouvoir d'achat.
Non, mais la CFDT, elle est en responsabilité dans les retraites complémentaires, qu'on subit un déficit. Et pour pas durablement baisser les retraites complémentaires ou les voir dans l'incapacité à terme de pouvoir les verser, eh bien, il faut prendre des mesures. C'est le paritarisme, c'est-à-dire c'est assumer sa part de responsabilité. J'entends des organisations syndicales qui ont le mot paritarisme plein la figure, mais qui n'arrivent pas à assumer leur responsabilité. C'est passager, c'est ponctuel, c'est parce que il y a un problème de pouvoir d'équilibre des régimes complémentaires. Mais je le dis, ça ne touche pas tout le monde. Et je le dis aussi, la question du pouvoir d'achat, elle touche prioritairement aujourd'hui ces travailleurs de deuxième ligne qui ont été présents et qui n'ont pas vu de revalorisation. C'est pas une situation globale.
Merci Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. On rappelle donc cette info, vous l'avez confirmé ici sur notre antenne, la CFDT va saisir de nouveau le Conseil d'État pour tenter de faire capoter cette réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur au 1er octobre. Merci d'avoir été notre invité sur RTL. Une petite pause et ensuite RTL Soir continue avec à droite le bal des candidats devant le bureau de Nicolas Sarkozy. Il est très courtisé, l'ex-président. Est-ce qu'il soutiendra un prétendant à l'Élysée ou bien est-ce qu'il appuiera Emmanuel Macron ? On va s'interroger dans les dessous de l'actu juste après ça. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. Et bonne fin de journée avec RTL, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Si vous nous rejoignez à l'instant, Marion Calais, session de rattrapage, vous nous rappelez les grands titres de l'actualité.
Ils doivent échanger dans les prochains jours, mais déjà un haut responsable américain l'assure. Joe Biden est impatient de s'entretenir avec Emmanuel Macron, les deux présidents qui doivent évoquer la commande de sous-marins que l'Australie a retirée à la France au profit des États-Unis. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, l'a confirmé il y a un instant sur RTL. Son syndicat va saisir le Conseil d'État sur la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur dans 10 jours, Laurent Berger. Qui dénonce une réforme injuste et injustifiée. Image spectaculaire en provenance d'Espagne et de l'île de la Palma aux Canaries après une éruption volcanique, la première en 50 ans. Une centaine de maisons ont été détruites et 5500 personnes évacuées.
Merci beaucoup Marion, bonne soirée. Le temps maintenant, Claire, retour à un temps plus sec, plus agréable.
Exactement, surtout pour la moitié nord, mais après la dissipation lente des brumes et brouillards qui vont quand même être assez tenaces, on pourra avoir quelques belles éclaircies. La moitié sud devra faire preuve d'un petit peu de patience avec beaucoup de nuages, quelques averses très localisées. Et pour les températures, on peut espérer pour l'après-midi jusqu'à 22 degrés.
Merci Claire.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, RTL se demande qui Nicolas Sarkozy soutiendra lors de l'élection présidentielle. Choisira-t-il un favori à droite? Est-ce que Emmanuel Macron peut bénéficier de son appui? Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
On a encore vu Xavier Bertrand venir déjeuner à la mi-journée avec l'ex-président. Ça sent un peu le passage obligé à droite pour l'instant.
Ouais, exactement. Et ils viennent tous lui baiser les babouches, selon l'expression consacrée par l'un de ses amis. Jeune loup, vieux briscard, candidat à l'Élysée, tous se pressent pour voir le sultan de la droite, Michel Barnier cet été, Valérie Pécresse début septembre ou Xavier Bertrand aujourd'hui. Alors je vous ôte d'un doute, Julien, personne ne repart jamais avec l'onction suprême, ouais. C'est-à-dire un soutien de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle. Tous en rêvent, mais aucun ne se fait d'illusions. L'idée pour les candidats, c'est plutôt de mettre en scène une proximité, montrer qu'ils ne sont pas tombés en disgrâce, c'est déjà ça. En pleine campagne, hein, il est de bon ton de s'inscrire dans la lignée du dernier président victorieux de la droite. D'ailleurs, même Xavier Bertrand a chanté ses louanges dans son discours sur la sécurité la semaine dernière, alors que ce n'est pas exactement le premier des sarkozistes.
On sent que Nicolas Sarkozy cultive l'ambiguïté.
Oui, l'ancien chef de l'État n'a pour l'instant aucune intention de donner sa préférence à tel ou tel candidat. Et tant pis si la droite ne sait toujours pas qui sera son champion pour 2022. Il encourage tout le monde pour que personne n'émerge, croit savoir un député. Il reçoit Xavier Bertrand, mais envoie en même temps des signaux favorables à Valérie Pécresse. Il s'est toujours ménagé un espace au cas où, pour revenir, veut imaginer un autre député. Pas de soutien clair, mais Nicolas Sarkozy fait passer des messages via son entourage. Par exemple, il est favorable à une primaire de la droite, faute de mieux, comme le révélait Aurélie Herbemont sur RTL.
Mais in fine, Marie, est-ce qu'il ne va pas soutenir Emmanuel Macron?
Alors non, un soutien clair, là encore, ce n'est pas du tout d'actualité pour l'instant. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que depuis 2017, les deux hommes se ménagent mutuellement, se traitent, comme on dit. Ils y ont tous les deux intérêt, juge un ministre qui l'a vu récemment. Une indulgence qui inquiète à droite, où l'on craint un soutien tacite, un silence bienveillant de Nicolas Sarkozy en faveur du président sortant. Ce serait inédit et un séisme à droite. Dernier exemple en date, hein, les deux hommes ont déjeuné ensemble le 9 septembre, pile le jour où les candidats de la droite défilaient à la tribune devant les députés LR. Autant vous dire que la coïncidence a fait tousser dans son camp.
Les dessous de l'actu, les coulisses du potentiel soutien de Nicolas Sarkozy avec Marie Mollet ce soir sur RTL. Merci Marie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Comme chaque soir, à cette heure-ci, on profite des bons conseils de la bande de Laissez-vous tenter, l'LVT dernière, tous les soirs. Des astuces, des idées, ciné, musique, littérature pour occuper les soirées de la semaine. Bonsoir Bernard Lehu.
Bonsoir.
Après-demain, Guillaume Musso va publier, ce sera un événement en librairie, son nouveau roman « L'inconnu de la scène » aux éditions Kalman-Lévy. Pour l'occasion, il vous a ouvert la porte de l'appartement où il se retire pour écrire. C'est vraiment une visite inédite de l'atelier, en quelque sorte, où se forgent les histoires du romancier préféré des Français.
Ben oui, c'est ça exactement. Donc un appartement situé au dernier étage d'un discret immeuble parisien à deux pas des Champs-Élysées, sur la grande table qui lui sert de bureau, l'ordinateur de Guillaume Musso, plongé dans les entrailles de l'écriture.
Et le fichier de l'inconnu, oui voilà, le fichier de l'inconnu de la scène est là.
Je peux regarder, jeter un œil sur l'écran.
Vous voyez, un truc qui est très important, par exemple,
les boîtes à outils et structures.
Les noms et les prénoms, par exemple, les noms des personnages, c'est très important et nécessite un travail parfois long et parfois ingrat.
Est-ce que tout au long de ces 10 heures de travail, vous avez un carburant ou des carburants? Parce que l'écriture, c'est aussi quelque chose de très physique.
Oui, oui. C'est café, thé...
Que vous préparez dans la cuisine?
Oui, bien sûr. Mon éditeur coréen m'offre du thé avec un goût orangé. Oui, enfin, c'est assez banal.
Les petites capsules de café, c'est ça, vous alternez entre le thé, le café.
Oui, voilà.
Qu'est-ce que... volontiers.
Les mécours ou long?
Plutôt court à cette heure-ci, merci.
Du sucre?
Non, sans sucre, merci. Voilà.
Alors là, vous avez un truc, une bouteille de whisky japonais. C'est une bouteille, en fait, vous savez, dans la construction du personnage de Nathan Foltz, qui est le héros de La vie secrète des écrivains, m'était venu à l'idée de dire, voilà, il faudrait qu'il y ait une marque de whisky préférée. Et je sais pas, j'avais lu un article sur les whisky japonais. Et donc, il dit, bon, ok, il va y aimer une marque de whisky japonais. Un moment, je devais décrire ça. Et je me suis dit, bon, allez, je vais quand même aller l'acheter pour voir ce que ça va être.
Et donc, vous avez trouvé le Yamazaki,
ouais,
qui est le whisky donc, qu'on retrouve dans le livre.
Que boit Falls.
Mais je suis vraiment fasciné par cette obsession du détail chez vous.
Ouais. Parfois, j'ai besoin d'une justesse, d'un truc qui va cadrer. Je voulais être au plus juste par rapport à ça.
C'est absolument fascinant. Et c'est très bon, le Yamazaki. Plus, il a très bon goût.
Un connaisseur.
Guillaume Musso, effectivement. Merci beaucoup pour cette plongée dans l'atelier de Guillaume Musso, Bernard Lue. On vous retrouve demain, 9h, 9h30, pour Laissez-vous tenter la quotidienne avec de sacrés invités. Demain, André Dussolier et François Ozon pour la sortie du film Après-demain. Tout s'est bien passé. Ça promet, à demain, 9h.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, on marque une très courte pause dans RTL Soir et ensuite la Dream Team dont défait le monde. Ouh. Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Au menu entre autres dans un instant. Est-ce que l'ONU sert encore à quelque chose? On va s'interroger avant l'ouverture de l'AG des Nations Unies. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.